Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, le président de la République du Burundi et président de l'Union africaine appellent à une riposte efficace et coordonnée contre l'épidémie d'Ebola. Déclaration de Evariste Ndayishimiye hier mardi lors du sommet virtuel de haut niveau sur les actions contre la flambée de cette épidémie liée à la souche Bundibugyo. À Kinshasa, environ 2600 ménages de déplacés venus des villes du Nord Kivu et du Sud Kivu vivent depuis plusieurs mois dans des conditions extrêmement difficiles. Selon leurs témoignages, cette situation accentue leur vulnérabilité. L'invité de ce journal est l'économiste de formation et professeur des universités José Kapinga. Il analyse une activité autrefois limitée à quelques points de lavage formel des véhicules en Mbujimayi, mais qui s'est aujourd'hui étendue de manière visible dans l'espace public. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, le président de la République du Burundi et président de l'Union africaine insistent sur la nécessité de renforcer la coordination transfrontalière entre les pays touchés et ceux exposés au risque. Evariste Ndayishimiye appelle à une riposte efficace et coordonnée sous le leadership d'Africa CDC avec l'appui de l'OMS et des communautés économiques régionales. Lors du sommet virtuel des hauts niveaux qu'il a convoqué hier mardi, Evariste Ndayishimiye a déclaré « Chaque jour d'inaction est un jour de trop ». Il a réaffirmé la solidarité de l'Union africaine avec la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda confrontées à une flambée d'Ebola liée à la souche Bundibugyo. D'autres détails avec vous, Alain Hirung.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'est joint aux dirigeants de l'Union africaine, aux partenaires internationaux, aux agences des Nations unies et aux organisations régionales lors de ce sommet. Il a appelé au renforcement des plans de riposte nationaux et régionaux, à la consolidation de la coordination transfrontalière et à l'intensification des mesures de préparation, de surveillance et de confinement. Mahmoud Ali Youssouf a également insisté sur la nécessité d'une solidarité soutenue et d'une action collective des États membres et de leurs partenaires afin de prévenir toute nouvelle transmission de la maladie et d'investir dans des systèmes de santé résilients à l'échelle du continent. Selon lui, ce sommet a servi de plateforme pour mobiliser d'urgence un engagement politique, des ressources financières et un soutien opérationnel afin de renforcer la réponse collective de l'Afrique à l'épidémie et de consolider la sécurité sanitaire continentale.
Alors que l'Ituri est confronté à une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola, l'Ordre national des infirmiers du Congo, antenne provinciale, tire la sonnette d'alarme. Dans une déclaration rendue publique lundi dernier à Bunia, l'organisation dénonce plusieurs faiblesses dans la riposte actuelle. Elle appelle à une meilleure protection du personnel de santé et insiste sur la nécessité de valoriser davantage les compétences locales. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Réunis en session extraordinaire, les responsables de l'ONIC en Ituri saluent les efforts déployés pour lutter contre Ebola tout en relevant plusieurs insuffisances. Ils dénoncent notamment le recrutement de personnel ne remplissant pas toujours les conditions légales d'exercice, l'absence de vérification systématique des qualifications professionnelles et une faible prise en compte des compétences locales. Les infirmiers s'inquiètent également de la sécurité des prestataires engagés dans la riposte. Selon eux, les menaces et les agressions contre les soignants se multiplient sur le terrain. Timothée Concienza, vice-président provincial de l'ONIC.
À la date du 13 juin 2026, 23 prestataires de santé, dont les infirmiers et les médecins, ont déjà perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. À cela s'ajoutent les agressions, les menaces physiques et verbales, les kidnappings et tentatives d'élimination des agents de la santé lors de leur service à la communauté, y compris la stigmatisation.
Face à ces défis, l'ordre recommande de renforcer les équipements de protection, d'accroître le nombre de centres de traitement d'Ebola et d'associer davantage le personnel de santé aux mécanismes de coordination de la riposte. Bunia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Les enfants du Nord Kivu doivent continuer de croire en leurs rêves, à commencer par le plus important de tous, à savoir les retours de la paix dans leur province. C'est le message lancé hier mardi par le Parlement d'enfants de Goma à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Organisée par la section protection de l'enfant de la MONUSCO, la cérémonie a porté sur la sensibilisation aux droits de l'enfant et à la prévention contre les virus Ebola en faveur des élèves des 12 écoles de la ville. Les détails avec Rosalie Zawadi.
Au Nord Kivu, le contexte actuel empêche de nombreux enfants de jouir de leurs droits. C'est le constat fait par le Parlement d'enfants de Goma. Malgré cette situation difficile, Ketia Babingwa, vice-présidente de cette structure, a profité de la journée de l'enfant africain pour lancer un message d'espoir à tous ses pères.
Plus particulièrement, c'est de Goma, c'est de prendre courage. Parce qu'on traverse beaucoup de choses. C'est surtout le manque de prise en charge des enfants par leurs parents à cause de manque de moyens financiers. Certains n'étudient plus. La plus grande chose que je peux demander pour maintenant, c'est juste avoir un Congo uni où il y a la paix.
Et ce sont ces enfants qui vivent déjà les conséquences de la crise sécuritaire qui doivent faire face à Ebola, déplore Mathieu Ndongo Koni, conseiller principal au sein de la section de protection de l'enfant de la MONUSCO Goma.
L'insécurité sanitaire s'est ajoutée à l'insécurité sécuritaire. Vu la présence des groupes armés à l'Est, on avait déjà ce risque-là de recrutement et d'utilisation des enfants, des risques de violences sexuelles contre les enfants. Mais aujourd'hui, s'ajoute le risque sanitaire et nous essayons d'apporter aux enfants une information de premier choix pour rester sains de corps et d'esprit.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
À Kinshasa, environ 2600 ménages déplacés venus des villes du Nord Kivu et du Sud Kivu vivent depuis plusieurs mois dans des conditions extrêmement difficiles. Selon leurs témoignages, ceux qui avaient trouvé refuge dans des familles d'accueil ou des structures locales se retrouvent aujourd'hui à la porte. Quant à ceux qui avaient loué des maisons, beaucoup ne parviennent plus à honorer leurs loyers. Une situation qui accentue leur vulnérabilité. Reportage signé Ronelinti Bonera.
Ce groupe composé d'avocats, militants de mouvements citoyens et agents de l'État s'est dit abandonné malgré son patriotisme affiché. Leur président Jordan Moulikouza affirmait que près de 19 déplacés sont décédés à Kinshasa faute de moyens et de prise en charge sanitaire.
Nous refusons de mourir en silence au cœur de la capitale de notre propre pays. Nous dénonçons aucune structure du gouvernement n'a déployé un plan d'assistance durable pour loger, nourrir ou soigner les milliers de compatriotes déplacés à Kinshasa.
Cette crise touche également les étudiants venus d'Ikivu, installés dans la capitale, qui peinent à poursuivre leurs études dans un climat d'incertitude.
Nous avons besoin de trois choses. Un, l'exonération des frais académiques pour ces jeunes qui sont en train de souffrir à Kinshasa. Nous avons besoin de trouver une place où est-ce qu'on peut loger. Et troisièmement, nous avons besoin de l'assistance sociale.
Malgré la volonté de certains bienfaiteurs d'apporter un soutien, des notables comme Richard Bongagne, originaire de Goma, se disent aujourd'hui à bout de souffle et appellent à une intervention urgente du gouvernement.
Il y a une partie du peuple qui s'est déplacée de son milieu pour venir ici à Kinshasa et ils ont besoin d'assistance de leur gouvernement. Ils ont besoin d'assistance de leur président de la République.
Il convient de rappeler que la majorité de ces déplacés sont des acteurs engagés contre la guerre du M23, ayant pris position pour la République et dénoncé les violations dans l'est du pays.
Et comment permettre à l'État congolais de mobiliser davantage des ressources pour booster le développement du pays et améliorer les conditions de vie des Congolais? La question est au cœur de la deuxième édition des journées scientifiques de Kinshasa, ouverte hier mardi autour du thème « L'accroissement des recettes de l'État, innovation, stratégie et résultats ». Initiée par la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, cette rencontre réunit parlementaires, membres du gouvernement, experts, régies financières, opérateurs économiques et sociétés civiles pour réfléchir au renforcement des finances publiques en RDC. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, qui a lancé les travaux, appelle à des solutions innovantes. On l'écoute au micro de Grâce Amzati Masanzi.
Aucun État au monde ne peut réaliser ses ambitions de développement, financer ses infrastructures, renforcer son système éducatif, améliorer son offre de soins de santé, garantir la sécurité de sa population ou soutenir la création d'emplois sans disposer des ressources suffisantes et durablement mobilisées. Au cours de ces dernières années, les recettes publiques mobilisées sont passées d'environ 4 milliards de dollars américains à près de 20 milliards, tandis que la pression fiscale est passée de 7 à 12,5%. Cette évolution témoigne des efforts consentis par le gouvernement ainsi que les différentes administrations impliquées dans la mobilisation de recettes. Par ailleurs, les conséquences de l'insécurité persistante dans certaines parties de notre territoire national, la prédominance du secteur informel, les pratiques de fraude et d'évasion fiscale ainsi que certaines faiblesses structurelles continuent de limiter le plein potentiel de nos recettes publiques. Face à ces défis, notre responsabilité collective est de rechercher des solutions innovantes, efficaces et adaptées à nos réalités.
De son côté, le manager et initiateur des journées scientifiques, Toussaint Mika, a appelé les participants à transformer les réflexions en actions concrètes afin de renforcer la capacité de l'État à mobiliser davantage les ressources internes. Dans la province de la Tchopo, la décision du ministre provincial des Finances de suspendre pendant 2 mois les taxes sur les denrées alimentaires suscite des réactions. Cette mesure prise par le gouvernement provincial vise à contenir la flambée des prix du riz et du manioc à l'approche des festivités du 30 juin. Mais du côté du secteur privé, les avis restent partagés. La FEC, section Tchopo, salue l'effort mais réclame des réformes plus profondes pour stabiliser durablement le marché. Des détails avec Jacques Moukonkoli.
La Fédération des entreprises du Congo section Tchopo brise le silence. Pour l'organisation patronale, suspendre les taxes sur les produits de grande consommation est une bonne initiative, mais elle ne résoudra le problème que très partiellement. Robert Osunja, vice-président de la FEC Tchopo, estime que le gouvernement provincial s'attaque aux symptômes plutôt qu'aux racines de la crise. Pour lui, d'autres paramètres clés sont oubliés.
Nous nous en donnons plus aux cultures pérennes qui sont plus rentables que la culture du paddy et du manioc. En second lieu, aussi longtemps que les multiples barrières érigées le long des routes d'évacuation ne sont pas éradiquées, ça sera un peu difficile pour que ces mesures-là puissent être favorables.
Pour rappel, le ministre provincial des Finances a décidé ce gel fiscal vendredi dernier face à la hausse vertigineuse des prix de l'huile de palme, du maïs ou de la farine. L'objectif affiché de l'autorité est de permettre à la population de célébrer la fête de l'indépendance dans l'apaisement. Mais sans action concrète sur le désenclavement des voies agricoles et la production locale, la fin de la trêve fiscale dans 2 mois risque de sonner un retour brutal à la réalité sur le marché de Kisangani. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Dans la province du Sankourou, la station de l'Institut National pour l'étude et la recherche agronomique INERA de Mukumari, ancienne grenière école de l'espace Kassai, fait aujourd'hui face à des contraintes liées à l'évacuation et à la commercialisation des produits agricoles. Cette doléance a été transmise au vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, lors de sa mission dans les territoires de Lomela, à environ 150 km de Lodja. Le chef de la station de l'INERA, Mukumari, Adam Oshongo, a plaidé pour la relance de la station afin qu'elle joue pleinement son rôle dans le développement socio-économique de la province. Ses propos ont été sélectionnés par Blaise Sindani Kambala.
Nous vous informons, Excellence, que nous sommes dans la zone équatoriale où la pluviométrie est autour de 2400 mm d'eau par an. Il n'y a aucun mois sans pluie ici. La culture de maïs peut être cultivée n'importe quand, n'importe quel moment, ici dans les Sankourou. Mais seulement problème d'enclavement. Nous manquons des engins. Nous n'avons pas un tracteur agricole. Nous avons beaucoup de semences. À ce jour, Excellence, les Sankourou est toujours sans semences. Ce n'est que l'homme là qui a un petit noyau de semences. Si nous avions un tracteur agricole avec remorque, nous pourrions bien, si vous voulez, apporter nos semences dans les autres territoires. Nous avons la charge de la Tchouapa. La Tchouapa se nourrit de Sankourou. C'est Sankourou qui est le grenier de la Tchouapa. Pour les riz, pour les maïs, pour l'arachide, les gens de Tchouapa viennent chercher chez nous. La station de l'INERA Mukumari, c'est 2445 hectares, dont près de 1000 hectares de plantations de VA. Ces plantations sont encore exploitables. Nous pensons que votre arrivée va booster davantage cette station pour que ça joue réellement son rôle pour le développement socio-économique de notre province.
En bref, au Kassai oriental, les gouverneurs des provinces s'insurgent contre le sabotage du réseau de distribution d'eau potable de la régie des eaux par les jeunes délinquants habitant le quartier Kemek dans la commune de la Mouya. Jean-Paul Mbouboué Kapo l'a dit hier mardi à la clôture de sa mission d'itinérance dans les communes, à la mairie d'Mbujimaï et dans d'autres institutions publiques et privées dont les bureaux sont installés le long du boulevard Mzé Laurent Désiré Kabila.
Actualité internationale.
La Chine simplifie l'accès à son marché pour les noix de cajou africaines. Pékin vient d'adopter des règles communes pour les importations en provenance de la plupart des pays producteurs du continent. Une mesure présentée comme un moyen de renforcer les échanges agricoles entre la Chine et l'Afrique.
L'invité.
Il s'agit de l'économiste de formation et professeur des universités José Kapinga. Il analyse une activité autrefois limitée à quelques points de lavage formel de véhicules en Mbujimaï, mais qui s'est aujourd'hui étendue de manière visible dans l'espace public. Dans la province du Kassai oriental, ce phénomène socio-économique retient de plus en plus l'attention. José Kapinga s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, professeur José Kapinga.
Bonjour, madame Esther Dalafina, merci.
Que révèle la multiplication des laveurs de véhicules le long des avenues de Mbujimayi sur l'état actuel de l'économie locale et du marché de l'emploi des jeunes?
Oui, cela marque une reprise de l'économie de la ville petit à petit. C'est une très bonne chose, c'est déjà un bon marqueur, car il n'y a pas de développement sans développement du transport. Et contrairement à la diminution des automobiles, principalement des véhicules dans la ville de Mbujimayi, constatée vers les années 2020, il était remarqué en 2023 une augmentation des véhicules, des automobiles. Et d'ailleurs, le prof Marcel Tchilingué a approfondi cette question dans sa thèse. Donc, la multiplicité des points de lavage indique une certaine augmentation des automobiles, des voitures sur la ville et l'augmentation du besoin à lavage de véhicules.
Comment expliquez-vous cette activité, autrefois concentrée dans quelques points de lavage formels, se soit autant étendue dans l'espace public? S'agit-il d'un signe de concurrence saine ou d'un marché devenu informel et contrôlé?
Par rapport à cette question, je dirais que tout dépend de la manière dont l'activité est organisée et les matériels utilisés. Parce que nous remarquons qu'il y a des garages qui procèdent aussi au lavage des véhicules, vraiment un service organisé avec des matériels appropriés. Et à côté également, il y a des jeunes qui, pour la survie, effectuent la même activité de manière traditionnelle, eau, savon, main, tout ça. Donc tout dépend de l'activité en présence ou observée. À cette question, je dirais que cela marque une reprise de l'économie de la ville petit à petit. C'est vraiment un marqueur de la reprise de l'économie, car il n'y a pas de développement sans développement de transport.
Cette activité peut-elle réellement constituer une source de revenus durables pour les jeunes ou s'agit-il d'une forme de débrouille temporaire liée à l'absence d'opportunités économiques structurées?
Par rapport à cette question, je dirais que ceux qui n'ont pas des moyens suffisants peuvent mutualiser leurs efforts afin de créer une activité ou un service organisé et qui peut rapporter plus que le travail individuel.
Peut-on considérer ces jeunes laveurs comme de véritables micro-entrepreneurs ou leur manque d'encadrement, de formation et d'accès au financement limite-t-il leur capacité à évoluer vers des entreprises viables?
Là, je pense aussi que tout dépend de l'activité en présence. L'ordonnance loi numéro 23/030 du 8 septembre 2022 relative à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up ou stock-options à son article 15, fait distinguer l'entrepreneuriat de survie, l'entrepreneuriat de croissance et l'entrepreneuriat émergent. Plusieurs appellations existent. Alors, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des micro-entrepreneurs, mais parler des véritables micro-entrepreneurs, en tout cas, tout dépend de l'activité observée.
Oui, professeur, quel type de formation, d'appui technique ou de micro-financement serait nécessaire pour permettre à ces jeunes de transformer leur activité en petites entreprises formelles ou compétitives?
Je pense qu'il faudra vraiment la formation sur l'élaboration des plans d'affaires, simplifiés, donc passant par l'identification de services, l'analyse des charges ou des coûts, les plans des intrants, le plan des équipements nécessaires pour booster cette activité-là de lavage, la vision d'émergence et la mutualisation des capitaux. Je pense qu'une formation axée sur ces aspects-là va aider ces jeunes gens.
Pensez-vous que l'absence des régulations de ces points de lavage peut-elle entraîner des tensions économiques, de conflits d'usage de l'espace public ou une dégradation de l'environnement urbain?
Un encadrement est nécessaire, notamment en rapport avec le respect de l'environnement du travail, donc la gestion des eaux usées et la gestion des clients aussi. Il faut vraiment un encadrement souple, adapté, car pour beaucoup de ces jeunes gens, c'est une activité de survie.
Merci beaucoup, professeur José Kapinga.
Je vous remercie.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté.